Bonsoir. On va commencer un petit peu en retard, c'est normal, pour l'installation. Donc, bienvenue à la première séance de la troisième session de l'Université populaire d'Attaque 78, organisée par les comités 78 Nord et 78 Sud. Donc, comme vous le constatez, les séances ont lieu une fois par mois, le jeudi. La première est aujourd'hui à Élancourt au Prisme, et on remercie évidemment le Prisme. Je vais parler de nos partenaires après. Et il y a des ateliers aussi qui se passent dans le nord du département, un samedi après-midi. Cette année, il y en aura quatre, à la Biocoop des Paunes, qui est aussi partenaire de l'université. Donc, vous avez un site sur lequel vous pouvez aller voir toutes les informations, et notamment un lien avec le programme et aussi les podcasts qui sont enregistrés par Marmite FM, donc, qui seront enregistrés aussi ce soir, qui sont sur le site et aussi sur le site de la radio, qui est aussi partenaire de notre université. Nous signalons que nous avons le soutien de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et qu'en plus de ça, les librairies de Le Pavé du Canal et dans la Mare sont présentes et à chaque fois, il y a des livres disponibles concernant le sujet à l'entrée du Prisme. Et puis aussi l'étape de littérature des deux comités. Il y a beaucoup de documents gratuits que vous pouvez utiliser et aussi des invités, notamment ce soir, puisque Emmanuel Thiré est notre invité, membre de la LDH. Il y a une petite étape pour la LDH 78. Voilà, donc cette année, vous avez, je ne sais pas si vous avez vu le programme, vous l'avez eu peut-être pas encore par papier, mais par mail. Il y a quand même un certain nombre de conférences. Nous avons donc au moins 5 conférences débats, 2 rencontres, et puis, nouveauté, nous aurons 2 tables rondes qui permettront une discussion avec plusieurs personnalités sur un thème, et puis 4 ateliers. En groupe, alors là c'est plus restreint, le maximum c'est 40 personnes pour qu'on puisse discuter et travailler pendant 3 heures et il faut s'inscrire impérativement pour l'atelier parce qu'en plus là les locaux sont trop exigus pour qu'on ait plus de 40 personnes. Et puis pour terminer, un spectacle qui cette année sera organisé par nos deux comités avec un repas auberge espagnole où on vous invite à participer, à amener vos préparations culinaires, nous payons la boisson, et ce sera donc le 12 juin. Et il y aura donc à la fois des chansons avec la chorale Rouge-Gorge et des conteurs et conteuses qui agrémenteront la soirée le 12 juin. Alors vous pouvez vous inscrire évidemment, c'est gratuit, je vous rappelle que c'est gratuit, vous inscrivez par internet. Pour les séances comme celle-ci, bon, il est préférable vraiment de s'inscrire, c'est pas impératif, mais pour les ateliers, c'est vraiment impératif de s'inscrire. Et vous avez le numéro de téléphone pour vous renseigner sur les séances. Voilà, donc on est assez satisfait qu'on puisse renouveler cette troisième année, puisque pour nous c'est important, ça fait partie de notre rôle d'association d'éducation populaire, de diffuser des informations, de connaissances politiques, économiques et sociales qui permettent aux gens après de s'enrichir. Alors, j'ai parlé des partenaires, je crois que j'en ai oublié aucun. Est-ce que j'ai oublié quelque chose pour les copains sur la présentation de l'université ? Non, je ne crois pas. Donc, on va présenter cette séance aujourd'hui. C'est une conférence qui sera assez courte, hein, je pense, Emmanuel, mais parce qu'il y aura un débat. Le thème, c'est immigration, fantasme et réalité. En fait, on a repris le titre d'un livre que Emmanuel Thiré avait écrit avec Claire Rodier en 2008, je crois. Et il est tout à fait choisi parce qu'il est encore présent, ce thème, aujourd'hui. Donc, Emmanuel est anthropologue, ethnologue et aussi a fait une agrégation de philosophie, ce qui ne gâche rien. Et il est directeur d'études à l'EE. H-S-2-S-E-2-S, c'est ça. Hein. Alors, il a pris part, il n'est pas seulement un écrivain, parce qu'il a écrit au moins une quinzaine de livres, mais il est aussi militant, notamment de la LDH, mais il a pris part de façon très active au mouvement de soutien aux sans-papiers, et notamment, il a fait une grève de la faim en 1998, qui a eu un petit écho quand même. Voilà. Et son dernier livre, le dernier livre qu'il a écrit, c'est vrai qu'on aurait pu faire un débat aussi là-dessus, parce qu'il est tout à fait d'actualité, Pensée à droite, mais qui est en 2012, mais qui a un écho avec le sujet dont on va parler, puisque pour Emmanuel, penser à droite, c'est avoir peur. Et le thème de l'immigration, c'est évidemment ce thème de la peur. Voilà. Alors, il a écrit effectivement, il a participé au livre qui a été édité par la LDH, qui s'appelle « Le livre noir de la politique française d'immigration, la honte de la République ». Voilà, donc je dévoile pas le sujet parce que vous avez le résumé dans la brochure, mais je crois que les analyses et la théorie d'Emmanuel sont tout à fait passionnantes et vont nous aider beaucoup à essayer de dépasser le débat très passionnel qui a lieu depuis plusieurs années et qui ne fait que monter avec d'autres forces qui ont intérêt à ce que ça monte. Voilà, donc je laisse la parole à Emmanuel.
Merci. Eh bien, Fabienne vous a indiqué à partir de quelles expériences sont fondées les quelques remarques que je vais vous présenter. Effectivement, j'ai été anthropologue et j'ai travaillé longuement en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Et ces deux derniers pays sont des pays d'immigration importante, puisque la Côte d'Ivoire compte environ 30% de ses habitants qui sont des étrangers. Et c'était donc une première expérience. Et puis ma seconde expérience, eh bien, ça a été une participation soutenue au mouvement des sans-papiers, ceci depuis 1996 et les événements de Saint-Bernard, dont sûrement certains d'entre vous se souviennent. Alors j'en viens tout de suite au cœur du sujet. La politique française et les politiques européennes de l'immigration sont en fait fondées sur ce qu'on pourrait appeler quatre axiomes ou quatre postulats qu'on peut énoncer à peu près comme suit. Premier axiome, il est possible, nous dit-on, d'endiguer l'immigration par des mesures administratives et policières. Deuxième axiome, il faut le faire, il faut l'endiguer, parce que si on n'endiguait pas la migration, eh bien, ce serait le raz-de-marée, l'inondation. Vous connaissez tous ces termes du vocabulaire médiatique courant. Et ce serait l'invasion et ça mettrait en cause nos équilibres économiques, politiques et sociaux. Troisième axiome, en particulier, nous dit-on, en période de chômage, il est impossible d'accueillir de nouveaux migrants. Et enfin, quatrième axiome, comme il faut tout de même présenter quelque chose de positif, on nous dit, ben en réalité, la solution du problème des migrations, pour autant que c'est un problème, passe par le développement des pays de départ qui permettra de tarir à la source les courants de migration. Bon, à présent, il me semble, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, que ces quatre axiomes, on peut les contester d'une part sur la forme, en ce qui concerne le caractère un peu odieux du langage technocratique utilisé, mais on peut surtout les contester sur le fond, en montrant que chacun de ces quatre axiomes repose sur un mélange d'illusions, d'idées fausses, de fantasmes ou même de mensonges, et qu'ils ne correspondent absolument pas à la réalité de la migration. Alors, premier axiome, on peut endiguer les migrations par des mesures policières et administratives. Bien, ce propos repose sur l'idée que les migrations sont un phénomène en quelque sorte superficiel et marginal dans notre histoire et que par conséquent, il est possible de le contenir ou même de l'empêcher. Alors il faut d'abord rappeler que la migration, c'est un phénomène extrêmement ancien et qui est pratiquement coextensif, si je puis dire, à l'histoire du monde. Si tant est que les paléontologues ont raison et que Yves Coppens a raison, qui situe l'origine du genre Homo sapiens dans la vallée de l'Homo, dans l'Est africain, eh bien c'est bien par voie de migration que l'Homo sapiens s'est répandu sur l'ensemble de la planète. Et par la suite, ce qu'on appelle les invasions barbares, jusqu'à la conquête arabe ou jusqu'à l'occupation du Nouveau Monde, eh bien, les migrations ont changé de lieu et ont changé de sens, mais elles ont été absolument permanentes, elles n'ont jamais cessé au cours de l'histoire du monde, et toutes les tentatives pour les empêcher, que ce soit le limès romain ou que ce soit la Grande Muraille de Chine, eh bien, ont été contournées avant d'être abattues et battues en brèche pour laisser libre passage à ces migrations. Alors, cette dimension coextensive à l'histoire s'explique par le fait suivant, à mon avis, il y a beaucoup de faits, mais en particulier l'un d'entre eux, c'est que, en réalité, la migration n'est que la forme contemporaine de la plus ancienne des libertés, à savoir la liberté d'aller et venir. Comme vous le savez, la liberté d'aller et venir a précédé de très loin toutes les autres libertés, que ce soit la liberté d'association, la liberté de la presse, etc. Et pendant de très très longues périodes de l'histoire, la liberté d'aller et venir a été la définition même de la liberté. Un esclave n'était pas libre parce qu'il ne pouvait pas quitter le domicile de son maître. Et un serf n'était pas libre parce qu'il ne pouvait pas quitter le domaine de son seigneur. Et dès que l'un ou l'autre était affranchi, la première des libertés qu'il avait, c'était la liberté de se déplacer, de quitter ce domicile ou de ce domaine, donc d'exercer cette liberté et d'aller et venir. Et les migrants d'aujourd'hui, et j'en ai rencontré un certain nombre en soutenant le mouvement des sans-papiers, les migrants d'aujourd'hui, comme ceux d'hier, ont la conviction profondément enracinée dans leur esprit et dans leur cœur que la migration, c'est un droit fondamental des êtres humains et que personne n'est habilité à leur interdire l'exercice. Et si nous partageons cette conviction, ce qui est effectivement mon cas, eh bien, il faut en tirer les conséquences et refuser un monde où seuls les ressortissants des pays riches bénéficieraient de cette libre circulation, cette liberté de circulation, tandis que les habitants des pays pauvres, eux, seraient assignés à résidence chez eux. Bon, mais en second lieu, il faut souligner le fait que la migration, elle est inscrite au cœur même de notre système économique et social. Bon, que ça nous plaise ou non, moi ça ne me plaît pas trop, et je pense qu'à vous non plus, mais enfin c'est quand même comme ça, nous vivons dans un système capitaliste. Nous vivons dans un système capitaliste. Or, le capitalisme implique, dans sa définition même, non seulement la liberté du marché des capitaux, de telle sorte que les capitaux puissent se rendre là où les profits sont au maximum, mais aussi la liberté du marché du travail, de telle façon que les travailleurs puissent se rendre, eux aussi, là où les salaires sont les meilleurs. Et la liberté sur ces deux marchés, elle est nécessaire pour que puissent s'accomplir les péréquations qui assurent péréquation des taux de profit, péréquation des salaires, qui assurent l'équilibre du système capitaliste. Alors, bien entendu, ça, c'est une définition théorique du capitalisme. Mais nous savons bien que dans la réalité, si la libre circulation des capitaux est aujourd'hui parfaitement assurée, en revanche, on est très loin du compte en ce qui concerne la liberté du marché du travail. Il y a des barrières qui s'opposent à cette liberté du marché du travail, et en particulier l'existence de frontières nationales opposables aux travailleurs et restreignant leur libre circulation. Mais il faut tout de même souligner que du point de vue du capitalisme dans sa définition, eh bien, ces barrières, ces entraves à la liberté de circulation du travail sont en quelque sorte contre nature et artificielles. Et de fait, sur la longue durée, la tendance est quand même à leur disparition progressive. Donc il faut se rappeler que, de fait, la tendance sur la longue durée est à leur disparition progressive. Il faut se rappeler qu'avant 1789, la France ne constituait pas un marché du travail unifié. Il y avait des barrières entre provinces qui entravaient la circulation des travailleurs et il fallait des autorisations pour se rendre d'une province à l'autre. Bon, la Révolution française a créé un marché du travail unifié en France. Nous assistons à l'heure actuelle à la création d'un marché du travail unifié à l'échelle de l'Europe et il n'y a aucune espèce de raison pour que cet élargissement progressif s'arrête. Alors, en outre, autre observation, que la mobilité du travail soit enracinée au cœur même du système capitaliste, bien, on en a un indice supplémentaire dans le fait que dès les premières années de la révolution industrielle, il y a un corps social qui, en France, a toujours été favorable à la liberté de circulation des travailleurs, et ce corps social, c'est le patronat. Certes, le patronat n'était pas favorable à l'égalité des rémunérations et à l'égalité des droits entre travailleurs nationaux et travailleurs étrangers, puisqu'au contraire, il voulait jouer sur le différentiel des droits et des salaires pour tirer l'ensemble du système vers le bas. Mais ceci dit, le patronat a toujours été favorable à la liberté de circulation, et encore aujourd'hui, le MEDEF se prononce régulièrement, à intervalles, mais régulièrement, contre toutes les mesures qui viseraient à restreindre l'immigration, et en particulier l'immigration de travail. Et des fédérations patronales comme celle du BTP, particulièrement intéressées par la question, se signalent par des déclarations encore plus catégoriques. Enfin, en troisième lieu, il faut souligner que la mondialisation donne une impulsion supplémentaire aux migrations. D'abord parce qu'elle réduit le coût des transports et des communications. Par ailleurs, parce qu'elle diffuse sur toute la planète des informations et des images concernant les pays d'arrivée, renforçant ainsi la motivation des migrants. Et enfin et surtout, elle fait de la migration une forme de résistance aux nouvelles modalités de domination inaugurées par le capitalisme mondialisé. Qu'est-ce que, en effet, que la mondialisation ? Ben, très sommairement, on peut la définir comme la domination du capital financier sur toutes les autres formes du capital et sur le travail. Et à quoi est-ce que le capital financier doit cette supériorité ? Eh bien, il la doit, pour l'essentiel, à son infinie mobilité et à son caractère nomade. Le capital financier n'est plus lié à aucun territoire particulier. Grâce à l'informatique, il se déplace instantanément d'une extrémité à l'autre de la planète et peut donc mettre en concurrence les territoires les uns contre les autres et les contraindre à satisfaire ses exigences, saisir toutes les occasions de profit qui se présentent, se retirer sans retard des situations où il serait en difficulté. Et en face de ce nomadisme du capital financier, bien, d'une certaine manière, la migration peut être regardée comme un effort pour bâtir ce que j'appellerais un contre-nomadisme du travail, opposant à la mobilité de l'argent une mobilité équivalente de la force de travail. Et c'est en ce sens que, dans leur livre « Empire », Antonio Negri et Michael Hart, que vous avez peut-être, certains d'entre vous ont peut-être lu « Empire », eh bien, les deux auteurs présentent la migration, et en particulier la migration irrégulière, comme, en quelque sorte, la forme la plus moderne de la résistance au capitalisme mondialisé. Enfin, toujours sur ce premier axiome, il est vrai qu'aux frontières des pays riches, eh bien, une véritable guerre est faite aux migrants. Une véritable guerre est faite aux migrants par les forces de police et les forces armées des pays riches en question. Ces forces disposent d'un matériel tout à fait impressionnant, militaire, hélicoptères, vedettes rapides, barrages électrifiés, radars, etc. Et ces forces disposent de toutes les ressources de la technologie la plus moderne. Et par conséquent, en apparence au moins, nous assistons aux frontières de l'Europe, mais pas seulement aux frontières de l'Europe, aux frontières des États-Unis, aux frontières entre l'Afrique du Sud et le Mozambique ou la Zambie, aux frontières des pays du Golfe, etc. Nous assistons à une sorte de bataille du pot de fer contre le pot de terre. Le pot de fer, c'est l'agence Frontex pour ce qui concerne la Méditerranée. Et le pot de terre, bien, ce sont les migrants. Et nous savons à quel point cette bataille est effectivement meurtrière pour les migrants, puisque les chiffres forcément sous-estimé dont nous disposons nous indique qu'il y a quand même eu, depuis une période de 5 ans, quelque chose comme 20 000 noyades en Méditerranée, sans compter les noyades aux abords des îles Canaries. Pourtant, en réalité, la balance des forces, elle est beaucoup moins défavorable aux migrants qu'il ne paraît. C'est qu'à leur tour, les migrants, et notamment les migrants illégaux, bénéficient de tous les atouts qui, dans le passé, ont avantagé les nomades par rapport aux sédentaires. Ils ont la supériorité du nombre, ils ont la supériorité, si je puis dire, des forces morales, parce qu'ils sont extraordinairement déterminés, extraordinairement décidés à aboutir à leur fin, c'est-à-dire à passer le barrage, et extraordinairement courageux. Par ailleurs, ils ont le choix du moment, du lieu auquel ils tenteront le passage, et ils inventent sans cesse de nouveaux moyens pour franchir les obstacles. Et finalement, l'effet de surprise joue en leur faveur. Alors j'ai souvent comparé cette bataille des migrants, entre les migrants et les gardes frontières, au combat qu'un éléphant pourrait livrer à des fourmis. Imaginez un éléphant qui déciderait d'interdire son territoire aux fourmis. Et alors il va tracer autour de son territoire un chemin de ronde. Et il va parcourir ce chemin de ronde. Et avec ses énormes pattes, il va certainement écraser au passage des centaines de fourmis. Seulement, les colonnes de fourmis, elles se déplacent pas par centaines, elles se déplacent par milliers. Et à la fin des fins, même si beaucoup de fourmis sont tuées dans le processus, eh bien les fourmis finiront quand même par envahir le territoire de l'éléphant. Elles seront se faufiler et à la fin, la victoire leur appartiendra. Et cette fable résume très bien ce qui est en train de se produire aux frontières des pays riches. Car les statistiques elles-mêmes des pays riches nous l'indiquent, ces barrages opposés aux frontières sont sans doute efficaces, et à certains égards, on peut dire que l'Europe est une forteresse, mais cette forteresse est aussi une passoire, car de l'avis même de l'OCDE, par exemple, eh bien, il rentre chaque année de 400 à 500 000 personnes en situation irrégulière à l'intérieur de la communauté européenne, et on évalue le total, alors c'est une évaluation avec une fourchette large, bien entendu, parce que les conditions de recensement ne sont pas simples, mais on évalue entre 4 et 8 millions le total des migrants irréguliers sur le territoire de la communauté européenne, et aucun indice ne nous indique que ce chiffre est en régression. Alors, ceci s'explique en particulier aussi par le fait que, en réalité, les États n'ont aucun poids en amont sur la décision de migration. La décision de migration, elle est prise par des individus. Dans certaines sociétés, j'en ai connu par exemple dans la vallée du fleuve Sénégal, elle peut être prise par des communautés villageoises qui organisent la migration de leurs ressortissants. Mais jamais, au grand jamais, aucun migrant n'a l'idée de solliciter l'autorisation du pays, de l'État du pays de départ ou de l'État du pays d'arrivée quand il prend sa décision de migration. Bon, s'il peut obtenir un visa, tant mieux, il sera ravi et il en profitera. Mais s'il n'obtient pas de visa, eh bien, il décidera de se déplacer par ses propres moyens, de franchir la frontière de façon illégale, et aucun État n'est en mesure de peser sur cette décision. Ils estiment, comme je l'ai indiqué plus haut, que ce faisant, ils exercent un droit imprescriptible, et par conséquent, contrairement aux apparences, les États ont en réalité très peu de prise sur le problème des migrations, très peu d'influence sur ce problème, et les accords que les États peuvent passer entre eux pour réguler les migrations sont en général tout à fait inutiles et ne reçoivent pas le moindre début d'application. Ils relèvent très largement de l'auto-illusion. Bref, prétendre contenir ou empêcher la migration, eh bien, c'est partager l'aveuglement du roi de Perse Xerxès, dont vous vous rappelez qu'au moment d'envahir la Grèce, il avait décidé d'enchaîner la mer pour faciliter le passage de ses troupes. Ben, il n'est pas arrivé et la tentative d'endiguer ou d'empêcher la migration par des voies policière ou administrative, eh bien, ça s'apparente à cette tentative d'enchaîner la mer. Alors, deuxième axiome, on nous dit, bah oui, mais si notre vigilance aux frontières se relâchait, eh bien, nous serions menacés de raz-de-marée, d'invasion, d'inondation. Vous connaissez ce vocabulaire. Bah, d'abord, il faut rappeler quelques chiffres. Bon, je ne vais pas en abuser, mais il est quand même important de fixer quelques ordres de grandeur. Pour les statisticiens de l'ONU, un migrant, c'est quelqu'un qui passe plus d'une année à l'extérieur de son pays d'origine. Alors, sur la base de cette définition, il y a aujourd'hui dans le monde un peu plus de 200 millions de migrants, à savoir environ 3% de la population mondiale. Alors ce chiffre s'élève de façon régulière. Il s'est élevé de 25% en l'espace de 40 ans, entre 1960 et 2000. Mais sa croissance, elle est rigoureusement proportionnelle au progrès de la mondialisation. Et c'est un point important. On ne peut pas se déclarer à la fois pour la mondialisation et contre la migration. Par ailleurs, surtout, bien entendu, si l'immense majorité des migrants viennent d'un pays pauvre, eh bien, en réalité, plus de la moitié d'entre eux vont d'un pays pauvre vers un pays un peu moins pauvre. Et seuls 45% d'entre eux vont d'un pays pauvre vers un pays riche. Pour prendre des exemples très simples, notre gouvernement entre en transe quand il y a 1500 Irakiens et 1500 Afghans qui hantent les rues de la ville de Calais. Il faut rappeler qu'il y a 3 millions de réfugiés afghans en Iran, qu'il y a 2 millions de réfugiés afghans au Pakistan, que la Côte d'Ivoire accueille, comme je l'ai dit tout à l'heure, un tiers d'étrangers sur son territoire, etc., etc. Bon, les chiffres sont clairs. Si tant est que l'immigration est une charge, si tant est, et je le dis sous réserve, j'y reviendrai, mais en tout cas, la plus grande partie de cette charge, elle est supportée par les pays pauvres et non pas par les pays riches, encore une fois, dans la proportion 55%-45%. En second lieu, et ça c'est un point plus important encore, le fantasme du raz-de-marée repose sur l'idée que c'est la misère au sens économique du terme, c'est-à-dire l'écart des niveaux de vie entre pays pauvres et pays riches, qui est le moteur principal, sinon exclusif, de la migration. Et comme cet écart ne se réduit pas, au moins en ce qui concerne un certain nombre de parties du monde, je pense à l'Afrique en particulier, eh bien, on nous dit que le flot serait appelé à enfler constamment, et d'où le spectre de l'invasion. Mais la réflexion, comme l'expérience, montre qu'en réalité, il y a là des idées tellement simples qu'en réalité, elles sont fausses. En effet, si la misère, encore une fois, au sens économique du terme, était le moteur principal ou exclusif de la migration, on devrait assister à une migration uniforme à partir de tous les pays pauvres. Et une migration d'autant plus importante que le pays serait plus pauvre et que l'écart, par conséquent, serait plus grand. Or, ce n'est pas du tout ça que nous observons. Ce que nous observons, c'est que la migration ne part pas du tout de façon uniforme de tous les pays pauvres. Au contraire, elle part d'un certain nombre de foyers extrêmement localisés et extrêmement circonscrits. Par exemple, plus de la moitié de la migration africaine en France vient en réalité d'une zone qui est au confluent du Haut-Sénégal et du Haut-Niger, qui correspond à deux populations, saracolées tout couleur. La chose ne se voit pas trop parce qu'on est au confluent de trois frontières, en réalité, Sénégal, Mali et Guinée, mais c'est une zone tout à fait restreinte et c'est elle qui envoie plus de la moitié des migrants africains en France. Alors c'est une zone pauvre, mais il y a d'autres zones tout aussi pauvres dans le reste de l'Afrique de l'Ouest et dans le reste du continent, et qui n'envoient pas du tout la même proportion de migrants. Pour prendre un autre exemple, jusqu'aux années 1990-95, la quasi-totalité de la migration de Chine continentale en France venait non seulement d'une seule province de la Chine, mais même d'un seul district de cette province, à savoir le célèbre district de Wenzhou, qui, bien loin d'être un district particulièrement pauvre en Chine, avait été un des premiers districts ouverts au commerce extérieur après la mort de Mao Tse-tung et l'avènement de Deng Xiaoping, ouverts au commerce extérieur, aux investissements étrangers, etc. Simplement, c'est un district qui avait envoyé des migrants en France avant même la Première Guerre mondiale et qui avait alimenté ce courant de migration pendant toute la première partie du XXe siècle. Et quand les migrations sont redevenues possibles après la mort de Mao Tse-tung, eh bien les Wenzhou ont recommencé à venir en France. Donc on trouverait, du reste, des phénomènes de localisation similaires dans des contextes tout à fait différents. Il se trouve que j'ai une maison dans un village de Bretagne qui s'appelle Plouet, qui est à côté de Lorient. Et pas très très loin de Plouet, à 20 km de là, il y a un autre chef-lieu de canton qui s'appelle Gourin. Bon, à Gourin, au début du XXe siècle, il y a un habitant de Gourin qui est parti s'établir à Chicago, dans la région de Chicago plus exactement. Et il a attiré peu à peu à lui quelque chose comme aujourd'hui 300 à 400 ressortissants de Gourin, soit de sa famille, soit de famille proche et apparentée, de sorte qu'il y a périodiquement une rencontre entre les Gourinois de Gourin et les Gourinois de Chicago. Mais ce qui est caractéristique, c'est que c'est Gourin qui est à l'origine de cette migration. Les autres chefs-lieux de canton environnants, Sker, Plouet, etc., n'ont pas du tout envoyé personne à Chicago. Et de même, quand vous connaissez le cas de Barcelonnette et de la migration des gens de Barcelonnette à Mexico, mais c'est Barcelonnette et c'est pas Gap, c'est pas Digne, etc. C'est parce que sur place, il y a eu quelqu'un qui a pris l'initiative, qui a fait venir les autres, etc., etc. Alors, cette localisation des foyers de migration montre qu'en la circonstance, le facteur économique, bon, qui joue un rôle, il serait absurde de le nier, mais si je puis dire, il est en quelque sorte surdéterminé par toute une série d'autres facteurs de caractère social et culturel. Et en particulier, l'existence dans une région d'une tradition de migration est tout à fait essentielle parce que les premiers arrivés facilitent la venue de ceux qui leur succèdent et les jeunes trouvent facilité d'accueil quand il y a une communauté d'anciens pour les recevoir. Alors, des causes particulières peuvent également opérer. Par exemple, en ce qui concerne la migration chinoise en France, en provenance de Chine continentale, eh bien, une des causes de cette migration, une des causes importantes, était la politique de l'enfant unique appliquée par le gouvernement chinois, c'est-à-dire l'interdiction faite aux couples d'avoir plus qu'un enfant. Bon, il faut tenir compte de ce qu'est la réalité chinoise. Il se trouve que quand cet enfant unique était une fille, eh bien, la famille ne s'en satisfaisait pas. Elle désirait avoir d'autres enfants, et en particulier des garçons, et c'était une des raisons pour elle de migrer. D'une façon plus générale, je dirais que ça n'est pas la misère au sens économique du terme qui est le facteur décisif de la migration, dans la mesure où des gens pauvres, mais qui, par leur travail, ont la possibilité de transformer leur situation, ces gens-là ne migrent pas. Dans la Côte d'Ivoire des années 1960, où il y avait le boom du cacao et du café, bon, les paysans ivoiriens n'étaient pas riches, mais ils avaient des perspectives d'enrichissement grâce aux plantations. Et ils ne partaient pas. Ce qui fait partir les gens, c'est beaucoup plus ce que j'appellerais la désespérance. C'est-à-dire le fait de se trouver dans une situation complètement bloquée, complètement verrouillée, dans un régime politique à la fois incompétent, corrompu et autoritaire, qui fait que vous ne pouvez prendre aucune espèce d'initiative, que vous êtes obligé de soudoyer tel ou tel fonctionnaire ou tel apparatchik de parti pour faire quoi que ce soit, que vous êtes en quelque sorte rançonné par la bureaucratie locale, avec aucune espèce de possibilité, d'éventualité de transformation. dans cette situation-là, la désespérance, alors c'est là que les gens partent, tout simplement parce qu'ils n'ont aucune possibilité de faire autrement. Deux remarques sur ce point-là. Ces sociétés bloquées, ces sociétés verrouillées, ces sociétés rongées par l'incompétence, l'autoritarisme et la corruption, eh bien, très souvent, elles sont maintenues en place précisément par nos propres pays occidentaux, pour des raisons de géopolitique, pour des raisons de clientèle à l'ONU, etc., etc. Et en maintenant de tels régimes en place, régime de Sassou Nguesso au Congo, régime d'Idriss Déby au Tchad, etc., on pourrait en animer un bon nombre, eh bien, en réalité, le gouvernement français et les gouvernements européens alimentent eux-mêmes cette migration qu'ils prétendent interdire. Ils l'alimentent d'ailleurs par un autre canal. Quand l'Union européenne négocie des accords de partenariat économique avec les pays d'Afrique de l'Ouest, qui sont en réalité des accords de libre-échange, et au terme duquel une agriculture européenne copieusement subventionnée va aller concurrencer des agricultures africaines déjà à bout de force, de sorte que le poulet breton se vend moins cher à Saint-Louis du Sénégal que le poulet local, eh bien, là aussi, en ruinant la paysannerie africaine, eh bien, les gouvernements occidentaux la condamnent en quelque sorte à l'exil, quitte à lui interdire ensuite le passage de la Méditerranée. La deuxième remarque que je voulais faire sur ce point-là, c'est que cette décision de migration en fonction de la désespérance, eh bien, c'est une décision qui est une décision rationnelle. Certains d'entre vous ont peut-être lu le livre d'Albert Hirschman qui s'appelle, en anglais le titre c'est « Exit and Voice », je crois que le titre français c'est « Défection et prise de parole », et où Hirschman tient le raisonnement très simple suivant. Il dit « Mais en face d'une situation que vous jugez insupportable, vous avez toujours deux solutions. Soit vous pouvez protester contre cette situation et essayer de la transformer, soit vous pouvez prendre la fuite et partir ailleurs. La première solution, c'est sans doute la meilleure, protester et changer la situation. Seulement, elle exige deux choses. Elle exige la liberté de parole, d'une part, et elle exige, pour qu'on puisse exprimer son mécontentement, et elle exige la liberté d'association, parce que c'est pas tout seul qu'on va changer la situation, il faut pouvoir s'associer à d'autres pour la renverser. Mais dit Hirschman, dans des situations où il n'y a ni liberté de parole, ni liberté d'association, eh bien, dans ce cas-là, la protestation est vaine, et la solution rationnelle, eh bien, c'est le départ. Et c'est exactement ce qui se produit dans ces sociétés verrouillées et bloquées. Donc, c'est une situation économiquement tout à fait intelligente et tout à fait rationnelle, et en réalité, chacun d'entre nous en ferait autant. Alors, un dernier point, c'est qu'il ne faut pas seulement évoquer, comment dire, les facteurs que les anglo-saxons appellent les facteurs « push », c'est-à-dire les facteurs qui poussent les gens à partir. Mais il faut aussi évoquer les facteurs qui les attirent dans nos propres pays. Alors, vous connaissez la célèbre thématique de l'appel d'air. Nos gouvernements, les uns et les autres, nous ont toujours expliqué qu'on ne pouvait pas régulariser et les migrants irréguliers, parce que ça ferait appel d'air. Ça ferait appel d'air et ça encouragerait d'autres à venir. Bon, ça, c'est tout à fait fantasmatique, parce que tous les migrants que j'ai pu connaître savaient très bien que la régularisation, c'était pas du tout automatique, que ça se conquérait à la force du poignet, que c'était extrêmement aléatoire, et que, par conséquent, c'était pas ça qui les faisait venir. Ce qui fait venir les migrants sur nos territoires, et c'est vrai aussi bien aux États-Unis que dans le Golfe, etc., c'est partout pareil, eh bien, c'est le fait qu'il existe, dans l'Europe d'aujourd'hui, une offre permanente et consistante de travail illégal pour les migrants. Ça nous renvoie, si vous voulez, à ce mécanisme que j'avais appelé autrefois, et ce terme a été accepté par la communauté des chercheurs, le mécanisme de la délocalisation sur place. Bon, c'est un mécanisme extrêmement simple. Vous savez tous, évidemment, ce que c'est qu'une délocalisation. Bon, une entreprise dont les frais de main-d'œuvre sont importants exporte sa production dans un autre pays où la main-d'œuvre coûte moins cher, quitte à la rapatrier ensuite, mais augmente ses profits de cette façon. Alors, ceci dit, vous avez un certain nombre d'entreprises qui, physiquement, à cause de la nature de leur activité, ne peuvent pas délocaliser. Bon, les entreprises du bâtiment ne peuvent pas délocaliser parce que le bâtiment, le chantier, il doit être là où le bâtiment sera utilisé ensuite. Un restaurant ne peut pas délocaliser parce qu'il doit être là pour sa clientèle. Le service à la personne ne peut pas délocaliser, etc., etc. Bon, dans les secteurs qui ne peuvent pas délocaliser, eh bien, le travail des migrants en situation irrégulière apporte une main-d'œuvre qui est en réalité dans les mêmes conditions que la main-d'œuvre des pays du tiers-monde que vont utiliser les industries qui délocalisent. C'est-à-dire des salaires d'abord aléatoires, payés en espèces, mais en général moins de la moitié du salaire minimum, des journées de travail interminables, aucune espèce de congé, aucune espèce de protection sociale, aucune espèce de droit. Bon, une main-d'œuvre, autrement dit, taillable et corvéable à merci, qui, pour ces sociétés-là, eh bien, pour ces entreprises-là, représente une main-d'œuvre tout à fait équivalente à la main-d'œuvre des pays du tiers-monde exploitée par les entreprises qui délocalisent. Eh bien, en fonction de cette situation, bon, c'est tout à fait clair quand on demande aux migrants dans quel secteur est-ce qu'ils travaillent, et on croise ça avec les statistiques de l'inspection du travail pour nous indiquer dans quel secteur s'opère le délit de travail des étrangers en situation irrégulière. Le résultat des deux enquêtes sont les mêmes. Les étrangers en situation irrégulière, ils se trouvent dans le bâtiment travaux publics, dans l'hôtellerie-restauration, dans le service à la personne, dans le nettoyage, dans le gardiennage et dans l'agriculture saisonnière pour certaines régions du midi de la France. C'est-à-dire exactement tous ces secteurs où la délocalisation n'est pas possible, eh bien là, ils viennent suppléer à cette impossibilité. Alors, cette observation jette d'ailleurs un jour très cru sur l'hypocrisie des politiques gouvernementales en matière d'immigration, parce que nos gouvernants proclament à l'envi qu'ils veulent éradiquer l'immigration illégale, mais s'ils se lançaient dans cette entreprise d'éradication, outre qu'elle serait quand même heureusement extrêmement difficile à mettre en œuvre, à la fois matériellement et politiquement, eh bien, s'ils se lançaient dans cette entreprise, des secteurs très importants de l'économie française, c'est-à-dire tous ceux qui bénéficient de la délocalisation sur place, se trouveraient immédiatement dans de très graves difficultés, sinon complètement paralysés. Et en réalité, les lois qui répriment l'entrée et le séjour illégal des étrangers remplissent une toute autre fonction. En réalité, il s'agit pour ces lois de s'assurer que les nouveaux arrivants sont bien placés dans cet état de précarité et d'insécurité qui les rend disponibles pour toutes les exploitations et pour tous les esclavages. Si on éradiquait l'immigration illégale, eh bien, la délocalisation sur place ne serait pas possible. Pour qu'elle soit possible, il faut donc qu'il y ait une certaine tolérance par rapport à cette immigration illégale. Alors on prend les lois qui sont suffisantes. Effectivement, il y a 30 000 expulsions par an, mais sur une population, un effectif que l'on évalue à 400 à 500 000, eh bien, la possibilité de l'expulsion, elle hante effectivement les esprits de chaque sans-papier et elle aboutit à faire que vivre dans la condition de sans-papier, c'est vivre dans la peur permanente d'être interpellé, d'être expulsé. Mais ceci dit, en même temps, elle maintient cette espèce de volet de 400 ou 500 000 personnes qui sont nécessaires à la délocalisation sur place. Alors, cette politique, elle vise donc à maintenir une certaine couche permanente, un certain volant permanent de travailleurs irréguliers, à maintenir ce volant dans la peur. Il faut dire que, heureusement, en France au moins, eh bien, c'est une politique qui atteint ses limites. Et les récentes grèves des travailleurs sans papier des années 2008, 2009, 2010 montrent bien que cette politique d'intimidation atteint de plus en plus difficilement ses objectifs. Alors, troisième point. En période de chômage, nous dit-on, il est impossible d'accueillir de nouveaux migrants. Alors ici encore, malgré son évidence apparente, Eh bien, le propos repose sur une analyse fausse. Premièrement, les travailleurs étrangers qui proviennent de pays extérieurs à la communauté européenne sont en réalité victimes d'un chômage deux fois plus élevé que la moyenne nationale. Ces travailleurs étrangers, 20% d'entre eux sont privés d'emploi, alors que ce chiffre n'est que de 9% pour les nationaux ou pour les étrangers ressortissants de la communauté européenne. Alors cette différence entre les deux chiffres de chômage illustre bien un premier rôle joué par le travail étranger en matière de chômage. Ce rôle, c'est celui de matelas protecteur. En cas de crise particulière ou générale, eh bien, les travailleurs étrangers, souvent moins qualifiés et par ailleurs privés du droit de vote politique, sont en règle générale les premiers licenciés, et en particulier, ce sont eux qui ont fait en priorité les frais des grandes opérations de restructuration industrielle des années 1970 et 1980 dans la métallurgie, dans la sidérurgie, dans l'automobile, etc., etc. Si leurs emplois avaient été tenus par des Français, eh bien, ce sont ces Français qui auront été frappés et la proportion des chômeurs nationaux se serait accrue d'autant. Ce rôle de matelas protecteur a été très bien mis en lumière par un chercheur qui s'appelle Claude Valentin-Marie et qui, par ailleurs, était directeur de la recherche à la direction de la lutte contre le travail illégal. Donc il avait un observatoire particulièrement pertinent, et il a très bien montré, en analysant en particulier les restructurations de la sidérurgie et de l'automobile dans l'est de la France, c'était l'exemple qu'il avait pris, à quel point ce rôle de matelas protecteur des étrangers a été important pendant cette période. Alors deuxièmement, l'affirmation selon laquelle il faudrait arrêter l'immigration en période de chômage parce que tout migrant serait un chômeur supplémentaire repose sur l'hypothèse qu'en France, il n'existe qu'un seul marché du travail. Or, c'est une hypothèse fausse. Nous savons très bien, et les enquêtes sociologiques le montrent aussi, qu'en France, il y a plusieurs marchés du travail et que ces marchés du travail sont largement séparés par des cloisons quasi étanches. Dans des secteurs comme le bâtiment, comme la restauration, en tout cas la restauration pour ce qui est de la cuisine et encore plus de la plonge, eh bien, ce sont en réalité des domaines qui sont pratiquement réservés à des étrangers. Il y a un jeune sociologue qui s'appelle Nicolas Jounin et qui avait décidé de faire une enquête sur les conditions de travail des manœuvres du bâtiment dans la région parisienne. Mais il a toutes les peines du monde. Enfin, en réalité, il n'a jamais réussi à se faire embaucher comme manœuvre. Parce que quand il se présentait dans une entreprise pour proposer ses services, on lui disait « Mais toi, t'es français, tu peux pas être manœuvre. Les manœuvres, c'est les Africains. Et puis les chefs d'équipe, ce sont des Maghrébins. Et puis les conducteurs de travaux, c'est des Portugais. Et puis les ingénieurs, c'est des Français. Mais toi, t'as pas ta place comme manœuvre. » Et il a fini par atterrir chez un ferrailleur, mais il n'a jamais pu s'embaucher dans le bâtiment, proprement dit. Bon, si vous prenez le nettoyage, si vous prenez la sécurité, la situation est à peu près la même. Autrement dit, bien loin de prendre le travail des Français, en réalité, les étrangers, et les étrangers en situation irrégulière entre autres, mais pas seulement, prennent le travail que les Français ne veulent pas faire ou ne veulent plus faire à cause des conditions de travail, à cause des conditions de rémunération. Pour prendre également un oracle bien placé, le président de la Fédération patronale de la restauration, M. Daguin, nous a bien expliqué qu'il y avait 50 000 places disponibles dans la restauration, mais qu'il ne trouvait aucun Français pour le faire, et que par conséquent, il était pour une régularisation assez large des travailleurs migrants, de telle façon qu'ils puissent les embaucher pour combler ces vides. Enfin, je dirais que il faut rester keynésien. Qu'est-ce qui crée la croissance? C'est la demande. Et qu'est-ce qui crée la demande? Eh bien, c'est le fait que de nouveaux producteurs entrent dans le circuit, entrent dans la consommation, etc., etc. Dans notre collectif parisien de sans-papiers, nous avions en particulier quelque chose comme un millier de travailleurs chinois en situation irrégulière. Bon. Ils ont été régularisés pour la plupart d'entre eux entre 1997 et 2000. et ils se sont constitués en une association pour obtenir la suite de leurs droits. Bon, parce que avoir les papiers, c'est une chose, mais ensuite, il faut avoir la sécurité sociale, etc., etc., ça n'allait pas de soi. Alors, on a pu suivre, du coup, leurs activités. Mais aujourd'hui, pratiquement les trois quarts d'entre eux se sont mis à leur compte. Non seulement ils se sont mis à leur compte, mais ils ont créé qui leur restaurant, qui leur atelier de maroquinerie, qui leur atelier de confection, etc. Et ils ont tous embauché un, deux, trois. Alors parfois, malheureusement, encore des sans-papiers, bien que nous les ayons souvent avertis que c'était dangereux. Mais en tout cas, ces gens ont créé des emplois. Ces gens ont créé des emplois et il n'y a aucune espèce de raison pour que ça ne se vérifie pas sur l'ensemble. Donc, sur ce point, à mon avis, il faut rester keynésien. Il faut admettre que l'introduction de nouveaux producteurs et de nouveaux consommateurs, eh bien, ça contribue à lutter contre le chômage et non pas le contraire. Alors, dernier axiome, et puis je resterai là. On nous dit, ah oui, mais, parce qu'il faut être un peu positif quand même. Alors, nos gouvernants nous disent, bon, pour en réalité résoudre le problème de la migration, eh bien, il faut développer les pays de départ de telle façon que les gens n'aient plus envie de migrer et qu'ils se décident à vivre et travailler au pays, comme on disait autrefois. Alors, en premier lieu, première remarque qu'on pourrait faire, c'est que si cette proposition est vraie, ben, il serait temps, grand temps, de passer de la parole aux actes. Je veux dire, ça fait quand même maintenant de 30 à 40 ans que la tâche de développement est posée comme prioritaire. Qu'est-ce qu'on a fait pendant cette période pour mettre en œuvre les mesures dont tout le monde sait qu'elles sont nécessaires au développement? Qu'est-ce qu'on a fait pour annuler la dette des pays du tiers-monde? Qu'est-ce qu'on a fait pour stabiliser le cours des matières premières? Qu'est-ce qu'on a fait pour empêcher la détérioration continue de termes de l'échange au détriment des matières premières et au profit des produits manufacturés? D'autre part, si l'aide au développement est tellement importante, pourquoi est-ce que l'aide publique française au développement est en diminution constante? Elle devait être à 0,60% du PIB français. Elles sont à l'heure actuelle de 0,30 à peu près. Et elles sont en baisse. Bon. Pourquoi ces accords de partenariat économique dont j'ai parlé tout à l'heure et qui contribuent à ruiner les agricultures africaines? Donc, premier point, mettre les actes en accord avec les discours. Mais deuxième point, il est tout à fait vain d'opposer migration et développement. Parce que les deux phénomènes, migration et développement, sont pas antagonistes. En réalité, ils sont complémentaires. Chacun sait bien aujourd'hui, et tout le monde, y compris dans les sphères officielles, que les sommes envoyées aujourd'hui par les migrants dans leur pays d'origine, les sommes qu'ils envoient à leurs proches restés au pays, sont quantitativement et qualitativement extrêmement supérieures à l'aide publique des pays riches aux pays en voie de développement. Les chiffres sont respectivement, à l'échelle mondiale, de 150 milliards de dollars contre 100 milliards de dollars. En plus, il faut poser le problème du point de vue qualitatif. D'abord, il faudrait examiner de près la nature exacte des dépenses qui sont considérées comme faisant partie de l'aide publique au développement. Et on aurait bien des surprises si on procédait à cet examen. Parmi ces dépenses, on trouverait par exemple les frais liés à la coopération militaire. La coopération militaire de la France au Tchad est comptée parmi l'aide que la France apporte au développement du Tchad. Il faut compter, on trouve dans ces sommes soi-disant liées au développement, les sommes consacrées au rapatriement des irréguliers expulsés, etc. Et enfin, qualitativement, il est bien clair que L'avantage des sommes envoyées par les migrants à leurs proches, c'est que ces sommes parviennent effectivement à leurs destinataires, qu'elles servent à construire des écoles, à construire des dispensaires, à creuser des puits, à tracer des routes, etc. Alors que chacun sait bien que l'aide publique au développement, pour l'essentiel, se perd, bon, soit dans les sables du gaspillage, soit dans les marécages de la corruption. Alors, dans ces conditions, il est bien clair que tout accord sincère de développement, tout accord sincère de coopération entre l'Europe et l'Afrique en particulier, devrait impliquer une clause de libre circulation qui permettrait aux migrants de venir gagner en Europe leur subsistance et celle de leurs proches et de repartir ensuite dans leur pays au moment qu'ils jugeraient utile et avec la formation et les compétences qu'ils auraient acquises durant leur séjour à l'extérieur. Et ce serait certainement une manière particulièrement efficace d'aider au développement de ces pays. Enfin, et ça sera ma dernière remarque sur ce point-là, eh bien, tous les experts s'accordent à reconnaître qu'au moins à court et à moyen terme, et les expériences en partie en Asie ont été tout à fait claires sur ce point-là, le développement, bien loin de tarir les migrations, au moins pendant un premier temps, un premier terme, mais qui compte de 10 à 20 ans, augmente la migration. Et c'est le célèbre migration hump. Ce hump, c'est la bosse du bossu pour les Anglais. Et ça définit le profil de la courbe de la migration en fonction du développement. Pendant une première période de développement, le développement, bien loin d'arrêter la migration, la facilite et la croît. Et ça se comprend très bien. Qu'est-ce que c'est que le développement ? Ben, c'est le passage d'un système économique archaïque, périmé, inefficace, à un système plus moderne. Bon, et en particulier, ça implique un certain transfert de l'agriculture vers l'industrie et les services. Bon, mais ce processus de mutation, il ne se fait pas en un jour. Il se fait sur une certaine durée, et au cours de cette durée, il y a un moment où l'ancien système est complètement disloqué, dégradé, et ne remplit plus ses fonctions antérieures, alors que le nouveau système n'est pas encore vraiment en place et ne peut pas accueillir les gens qui gagnaient leur vie dans l'ancien système. Et très concrètement, ça veut dire que vous avez une agriculture qui progresse, dont la productivité s'améliore, qui par conséquent libère de la main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre, elle s'en va en ville, mais en ville, elle ne trouve pas d'emploi pour l'accueillir, en tout cas pas immédiatement. Et donc il y a une espèce de période de jeu et de flottement dans le courant du processus de développement qui fait que les gens, n'ayant plus d'emploi à la campagne, pas encore d'emploi en ville, eh bien qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent le chemin de l'exil. Par conséquent, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, je suis tout à fait favorable à l'aide au développement, mais il faut bien voir que attendre du développement le tarissement des migrations, eh bien, au moins à court et à moyen terme, c'est tout à fait une illusion. Alors, que conclure ? Ben, deux points. Premier point, c'est que, qu'on le veuille ou non, la liberté de circulation, c'est à la fois un droit et c'est aussi un fait. C'est à la fois un droit, je l'ai dit en commençant, c'est un droit, à mon avis, imprescriptible de la personne. Il n'y a aucune raison de s'accommoder d'un monde de privilèges où la liberté de circulation serait exclusivement réservée aux ressortissants des pays riches et dont seraient exclus les ressortissants des pays pauvres. Et puis la liberté de circulation, c'est aussi un fait. Je veux dire que la migration, nous la voyons sur l'ensemble de la planète, elle s'écoule, qu'on le veuille ou non, avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup d'obstacles, beaucoup de morts, etc. Mais n'empêche qu'elle se fait et que les politiques d'endiguement sont des politiques à courte vue et des politiques largement inefficaces. Alors il vaudrait beaucoup mieux, et il serait beaucoup plus réaliste en réalité, de prendre ce problème à bras-le-corps et d'essayer de l'organiser, de l'aménager au mieux des intérêts des uns et des autres. Bon, une liberté peut être aménagée. Nous avons la liberté de circuler dans nos villes et il y a des feux rouges et des feux verts pour organiser cette liberté de circulation. On peut imaginer des dispositifs de ce type, des dispositifs contractuels, etc. Mais de toute façon, ce serait beaucoup plus raisonnable que de bâtir en quelque sorte des murs dont la destinée inéluctable est d'être fracturée, mais d'être fracturée dans des conditions de haine et de violence qui annoncent des jours difficiles. Il faut mesurer, et quand on a été longuement en contact avec l'Afrique, en particulier comme je l'ai été, la somme d'humiliation, de ressentiment et de rancune justifiée qui s'accumulent dans ces pays, compte tenu de la manière dont nous les accueillons en France. Alors, bien entendu, la liberté de circulation, elle ne se fera pas du jour au lendemain. C'est un processus qui implique toute une série de mesures, d'abord de mesures pédagogiques par rapport à la population française, pour lui faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'invasion ni de raz de marée, mais ça implique aussi toute la mise en place d'une véritable politique d'accueil. Une première étape peut quand même être franchie, dire ça ne se fera pas immédiatement, ça n'est pas une manière de renvoyer les choses au calendrier grec. Un certain nombre d'associations, il y a quelques années, s'étaient mises d'accord sur une liste de mesures immédiates qui pouvaient être prises par décision du gouvernement français, sans nécessairement passer par l'Union européenne. La dépénalisation du séjour irrégulier, la fermeture des centres de rétention, l'attribution généralisée de la carte de 10 ans, de manière à permettre aux migrants de s'intégrer, effectivement, de bénéficier de la stabilité. L'abrogation des restrictions au regroupement familial, qui sont contraires, en réalité, au droit de vivre en famille, qui est reconnu par toutes les conventions internationales. La motivation nécessaire des refus de visa. Vous savez qu'à l'heure actuelle, l'administration peut refuser un visa sans donner le moindre motif, mis à part quelques catégories privilégiées. Si les refus de visa étaient motivés, ça permettrait de les contester devant le tribunal administratif et par conséquent, ça élargirait la possibilité de circuler. Bon, il y avait 7 ou 8 mesures de ce genre qui avaient pour impact, et je me souviens d'en avoir discuté une fois avec des responsables de l'UNSA Police à l'époque, alors qu'ils disaient, mais messieurs, parce qu'on était plusieurs, les mesures que vous envisagez, ça n'ira pas du tout, parce qu'on ne pourra plus expulser personne. Ah ben, je dis justement, c'est exactement l'objectif que nous cherchons. Autrement dit, un certain nombre de mesures qui consistent à rétablir les étrangers dans leurs droits, eh bien, elles paralysent la répression. Pourquoi ? Parce que la répression, elle est une violation continue des droits des intéressés. Donc, rétablir les étrangers dans leurs droits, les ramener dans le droit commun, rétablir, en tout cas, le débat judiciaire contradictoire chaque fois qu'une décision concernant leur entrée ou leur séjour doit être prise, tout ça, ce sont des mesures qui constitueraient un premier pas en avant vers ce retour à la liberté de circulation qui, à terme, est la seule solution concevable. Merci de m'avoir écouté.
Merci bien, Emmanuel. C'était vraiment bien complet. Moi, c'est ce que j'avais écouté il y a déjà un certain nombre d'années à une université d'attaque, et je retrouve tout à fait le discours. Et je trouve que c'est important par rapport à tout ce qu'on entend sur... ils ne peuvent pas s'intégrer, les problèmes de religion, c'est-à-dire qu'on prend les problèmes de la surface des choses, des prétextes, pour éviter de discuter du fond du problème comme il vient d'être exposé. Alors, on va passer la parole à... Il y a des questions, des interventions. Il y avait le monsieur là qui m'avait demandé tout à l'heure, avant de rentrer même.
Bonsoir. Merci Emmanuel pour cette petite conférence très complète. Je m'appelle Benoît Boucher du réseau Éducation sans frontières 78. En fait, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est qu'il y a 5 ans, avec le réseau, on a créé un groupe de jeunes face pour lutter contre les lois de Sarkozy, un groupe de jeunes majeurs scolarisés sans papier. Donc au début, on avait 10 de jeunes. 2 ans après, disons en 2012, on en avait 20. Aujourd'hui, on est en 2014. C'est pas 20 qu'on a, c'est pas 40, c'est 80 jeunes. On a 80 jeunes majeurs scolarisés sans papier, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui ont 18 ans, qui sont majeurs, et qui veulent toujours aller à l'école, mais ils ont des gros problèmes pour continuer leurs études. Alors ce que je voulais faire ce soir, c'était lancer un appel. En fait, on a vraiment besoin. C'est un appel à bénévolat parce que nos bénévoles sont vraiment débordés et ils font des permanences sur Versailles pour les aider à monter les dossiers pour les préfectures et tout ce qui va avec. Donc si ce soir dans la salle, il y a des gens de bonne volonté qui ont du temps à consacrer à ces jeunes et pour nous aider, vous êtes les bienvenus. Donc je suis là et puis je peux prendre vous donner les coordonnées. Voilà, je vous remercie.
Merci Benoît.
Merci. Bonsoir, c'était effectivement très, très bien et très complet et je partage énormément de choses, donc je vais insister que sur les choses qui me posent question. C'est ce qui est le plus intéressant dans le débat. Donc moi je suis militant à Attac, RESF, tout ça, les sans-papiers, je suis enseignant à Trappes, donc j'en ai plein, je fais des lettres, je fais tout ce que je peux. Donc voilà, je suis de ce côté-là de la barrière, mais je ne m'empêche pas de réfléchir à une sorte de contradiction que je vois dans le discours. Quand on est de la gauche radicale comme moi, qu'on n'est pas keynésien, qu'on est anticapitaliste, qu'on est contre la croissance, donc objecteur de croissance, est-ce que la priorité pour moi, et là c'est vraiment une question parce que je suis un peu perdu, je n'ai pas de certitude, ça doit être de prêcher le contre-nomadisme et le droit à la circulation, puisqu'au final j'ai l'impression que vous nous avez dit que le patronat était d'accord, que c'est bon pour la croissance, donc je suis gêné parce que moi j'aime pas le patronat, j'aime pas la croissance. Et où est-ce que ma priorité doit être ? Vivre et travailler au pays, vivre dignement là où on est né, c'est peut-être la priorité. Alors je sais qu'il faut tenir les deux. Vous avez essayé de résoudre cette contradiction à la fin en disant on peut faire les deux. Mais c'est pas si simple que ça parce que voilà, le droit à la circulation, ça ne doit pas être un privilège pour les Occidentaux. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, moi, je me bats contre ces Occidentaux qui considèrent que la Terre est un vaste terrain de jeu. C'est-à-dire, surtout ma génération, là, moi j'ai une trentaine d'années. Voilà, quand tu es un jeune de mon âge qui a de l'argent, dit tiens, où je vais partir en vacances, il prend le globe et c'est son terrain de jeu. C'est tiens, où est-ce que je vais aller ? Est-ce que je vais aller voir les pauvres là ? Est-ce que je vais aller voir les pauvres là ? Est-ce que je vais aller faire un trek à cet endroit là ? Tiens, je vais aller vivre avec les bédouins. C'est la cour de récréation, quoi. Voilà. Et donc moi, en tant qu'objecteur de croissance, donc plutôt en train de lutter contre le principe de la mobilité, en fait, parce que l'idée de l'auto-limitation. Voilà, je prêche l'auto-limitation. J'ai du mal comme je dis à mes gens de mon âge, si on partait en vacances ensemble à 50 km dans un gîte rural à jouer aux cartes et à discuter en refaisant le monde et en lisant des livres, j'ai du mal à défendre le contre-nomadisme comme étant l'avant-garde de la lutte. Voilà. Donc je suis un petit peu perturbé face à tout ça. J'attends pas de réponse, mais je voulais vous livrer un petit peu cette gêne que j'ai, parce que effectivement, j'ai plutôt tendance à vouloir me battre contre la dette, pour qu'on vive bien dans ces pays-là. Et ça veut pas dire qu'ici il faut leur faire la misère, non, c'est pas et les empêcher de venir, c'est pas ça. C'est vraiment dans le discours. Là, je parle pas dans les faits, je parle dans le discours que doit mener une gauche radicale, quelle doit être la priorité. Et je suis un peu perdu. Et c'est le problème, c'est qu'on est tous perdus. Et c'est pour ça qu'on est mauvais, et que quand Marine Le Pen, elle dit « Moi, j'aime pas les patrons, et donc c'est pas bien parce que ça fait baisser, etc. etc. » Même si, bien sûr, c'est de l'affichage et c'est du grand n'importe quoi, le problème, c'est qu'au niveau du discours, elle paraît cohérente, là où nous, on ne paraît pas du tout cohérent. Et d'où son efficacité. Donc il va falloir qu'on trouve une cohérence pour pas se faire tondre comme elle est en train de nous tondre.
Merci, Nicolas.
Oh. Je veux dire, répondre, introduire quelques éléments dans le débat. Je veux dire, le premier élément, ce qui me paraît important, c'est le libre choix. C'est-à-dire que les intéressés eux-mêmes, les ressortissants de ces pays pauvres, aient le choix entre migrer, et dans des conditions correctes, ou bien vivre et travailler au pays. C'est-à-dire qu'ils disposent de la même liberté que nous, tout simplement. C'est, en termes d'égalité, la revendication au minimal. Donc, à eux de choisir, à eux de décider il faut qu'ils bénéficient au moins de la même liberté que la nôtre. Ça, ça me paraît le principe de départ. Il n'y a aucune espèce de raison que nous, ressortissants des pays riches, eh bien, nous décidions à la place des migrants s'il faut qu'ils restent chez eux, s'il faut qu'ils s'en aillent, etc., etc. Nous n'avons aucune qualité pour prendre cette décision à leur place. La décision de migrer, encore une fois, c'est une décision individuelle, c'est une décision qui ressortit du libre choix et qui doit leur être maintenue. En termes de croissance, moi j'entends les discours sur la décroissance ou sur l'hostilité à la croissance, mais je suis toujours gêné par le fait que ces discours sont le fait de gens qui sont des privilégiés de la croissance, c'est-à-dire qui ont profité longuement des avantages de la croissance en termes de développement industriel, de développement social, de développement économique, et qui aujourd'hui disent « ah ben, on arrête les frais », parce qu'effectivement, c'est pas supportable, et ils ont probablement raison, c'est pas supportable pour l'avenir de la planète. Ben oui, mais les pays qui, eux, n'ont pas bénéficié de ces avantages de la croissance, ou en tout cas, en ont bénéficié moins, eux disent, mais il n'y a aucune espèce de raison pour qu'encore une fois de plus, eh bien, vous ayez le monopole et le privilège de ces avantages, et que nous, nous en soyons privés parce que nous avons pris un peu de retard dans le processus. Et par conséquent, je comprends aussi la réaction de gens, par exemple en Chine, par exemple en Corée, par exemple à Taïwan, qui, eux, ne partagent pas ce discours sur la décroissance parce qu'ils estiment qu'ils ont le droit de bénéficier des avantages incontestables de la croissance. Il y a des inconvénients, mais il y a aussi des avantages dans le passé, de la même façon que les peuples d'Europe. Alors j'ajoute que les contradictions, elles sont nombreuses en la matière. Bon, moi personnellement, j'ai toujours été embarrassé, bon, pas dire un autre mot, mais embarrassé par le discours courant en France, et en France parmi nous, y compris dans les rangs de la gauche, en matière de délocalisation. Parce que la délocalisation, c'est incontestablement un drame pour les travailleurs qui sont victimes de ces opérations de délocalisation. Et sur ce plan, je comprends bien leur protestation et leur réaction. Il reste que l'arrivée d'une usine délocalisée au Maroc ou en Tunisie ou en Indonésie ou en Thaïlande, etc., représente en général, pour les travailleurs de ces pays, un progrès significatif. Même si les salaires sont beaucoup plus faibles dans ces régions qu'ils ne le sont en Europe, eh bien, ils représentent quand même, par rapport au niveau de vie antérieur, de masse qui étaient des masses paysannes, un progrès significatif. De sorte que avoir un point de vue sur la délocalisation, à mon avis, ça ne peut pas être uniquement un point de vue national. Ça doit être un point de vue internationaliste. Bon, après tout, il y a eu une période où l'internationalisme était une valeur cardinale du mouvement ouvrier. Je dois dire que je regrette cette période. Et en termes de délocalisation, je pense qu'il y aurait beaucoup plus à chercher du côté de la mise en œuvre de ce qu'on a appelé la célèbre clause sociale, c'est-à-dire le fait de soumettre le commerce de ces pays à des considérations, à des critères de caractère politique, social, économique, bon, l'application de la liberté syndicale, l'existence des libertés d'une façon générale, ce serait beaucoup plus dans ce domaine-là qu'il faudrait chercher que dans le refus pur et simple ou dans le protectionnisme pur et simple. Bon, voilà ce que je peux dire sur la question. Le contre-nomadisme du travail, je veux dire, que nous soyons pour ou contre, ça n'a pas grande importance, à la limite, parce que c'est les intéressés qui le mettent en œuvre. C'est eux qui décident de le faire. Bon, dans la mesure où, à l'heure actuelle, bon, ils estiment que leur propre pays a très très peu de chances de se développer, a très très peu de chances de voir arriver des entreprises, etc., et c'est quand même vrai pour beaucoup de pays africains, eh bien, là encore, le contre-nomadisme du travail me paraît une stratégie intelligente. Et encore une fois, elle dépend des intéressés. Que nous soyons pour ou que nous soyons contre, finalement, ça compte pas beaucoup.
Une intervention ici.
Oui, bonsoir. Moi, j'ai trois petites questions. La première concernant l'élargissement de l'Europe aux pays de l'Est. Qu'en est-il de l'invasion attendue des populations des pays de l'Est sur, j'allais dire, la France et puis sur l'Europe constituée avant. Deuxième question, c'est concernant les exilés, non pas les exilés, les réfugiés, ceux qui demandent l'asile et dont un certain nombre plus visible, celui qui est sur Calais, qui ne souhaite pas rester en France. Et pourtant, on les empêche. Ils veulent aller en Angleterre, en Grande-Bretagne, mais on fait tout pour les empêcher, sachant qu'on dit ils gênent, etc. Mais en même temps, on ne les laisse pas traverser. Quelle est la raison derrière, quand je dis la raison, en dehors des accords de l'Union, etc., quelle est la vraie cause de cela? Et troisième question, mais peut-être c'est un autre volet qui demande un autre débat ou une autre conférence, c'est pourquoi la gauche, à l'époque de 1981, Mitterrand, et sa promesse, la 101e, je crois, sur le droit de vote des résidents migrants, n'a pas été faite. Et là, deuxième, je dirais, mandat présidentiel de la gauche, qui, je ne crois pas qu'elle mettra en place ce droit de vote, qui pèserait quelque part sur, je dirais, la politique, au moins au niveau des collectivités locales. Merci.
Mais ça fait trois questions. Alors... Je les prends pas dans l'ordre où vous les posez, mais c'est pas grave. En ce qui concerne Calais, la situation à Calais, elle est extrêmement intéressante et extrêmement significative. À Calais existait, il y a une dizaine d'années, le célèbre centre de Sangatte, qui servait d'abri de fortune, mais enfin quand même d'abri, au moins par rapport aux intempéries, pour les migrants qui stationnaient dans la région de Calais. Le gouvernement Sarkozy a supprimé le centre de Sangatte et a fait en sorte qu'en réalité, les migrants sont maintenant laissés dans la rue à Calais. Vous avez vu que la maire UMP de Calais vient de réclamer la réouverture du centre de Sangatte, en réalité. Bon, ça prouve à un certain degré d'incohérence. Deuxième point. Ce qui est extrêmement caractéristique de la situation à Calais, vous avez en permanence, à l'heure actuelle, alors ça varie de quelques centaines, mais c'est du même ordre, de 1200 à 1500 migrants qui hantent les rues de Calais et le port de Calais. Mais chacun sait bien que le durée de séjour à Calais, elle est, selon les périodes, de l'ordre de 3 à 6 mois. Mais qu'au bout de 3 à 6 mois, la majorité des migrants passent parce qu'ils ont trouvé le bon passeur, qu'ils ont payé suffisamment cher pour trouver le camion qui les transporte, etc., etc. Il y a un turnover important à Calais, ce qui fait que le volant des gens présents à Calais, c'est 1200 à 1500 personnes, mais c'est jamais les mêmes. Ou plus exactement, tous les 6 mois, Ça se renouvelle. Autrement dit, tout est fabriqué pour qu'en réalité, les gens passent, seulement ils passent dans des conditions abominables, en se faisant racketter par des passeurs, etc., etc. Et les mesures contrôle renforcé qui sont mises en œuvre à Calais, comme sur le reste des frontières européennes, elles ont un résultat assuré, et ça, tout le monde le sait, c'est qu'elles augmentent le chiffre d'affaires des passeurs. Parce que comme les gens veulent passer, eh bien, ils font les efforts nécessaires pour rassembler des sommes dont les tarifs augmentent constamment. Et le chiffre d'affaires du trafic de main-d'œuvre aujourd'hui, il n'est pas encore l'égal du chiffre d'affaires du narcotrafic, mais on sait qu'il y a des capitaux qui partent du narcotrafic pour aller vers le trafic de main-d'œuvre, parce que dans le trafic de main-d'œuvre, eh bien, les peines sont beaucoup plus légères et les risques encourus sont beaucoup plus faibles. Mais l'évaluation des dépenses, du chiffre d'affaires des passeurs, si vous voulez, sur le territoire de l'Europe, est quand même évaluée à quelque chose comme 3 milliards de dollars aujourd'hui. Donc ça n'est pas rien, ça n'est pas insignifiant. Bon, voilà pour ce qui est de Calais. Pour ce qui est de l'Europe de l'Est, ce qui s'est passé avec l'Europe de l'Est est intéressant parce que on nous avait dit « Ah, mais différence de niveau de vie, il va y avoir un déferlement des travailleurs d'Europe de l'Est en direction de l'Europe ». Alors c'est vrai qu'il en est arrivé un certain nombre en Angleterre et en Irlande, en particulier de travailleurs polonais. Bon, ceci dit, en France, il n'y a pas eu déferlement. Il y a eu un certain nombre d'Ukrainiens, de Moldaves qui sont allés en Espagne, mais en aucun cas on ne peut parler de déferlement. Et à l'heure actuelle, les migrants polonais ont plutôt tendance à retourner en Pologne parce que la Pologne est dans une situation économique bien préférable à celle de l'Irlande. Par conséquent, c'est un argument en ce qui concerne ce fantasme du raz-de-marée qui montre bien, mais on pourrait prendre d'autres exemples dans le passé. Vous savez, moi j'ai vécu, parce que je suis quand même relativement âgé maintenant, même pas relativement, vraiment âgé, quand j'étais jeune, les entreprises automobiles de la région parisienne, en particulier Citroën et Simca, envoyaient au Maghreb, soit dans les Aurès, soit dans l'Atlas marocain, de véritables missions de racolage pour aller chercher des travailleurs qui, par conséquent, déferlaient pas d'eux-mêmes puisqu'il fallait aller les chercher. Et c'était des missions apparentées au marché d'esclaves. Bon, on regardait s'ils étaient en bonne condition physique, on les faisait venir. Et puis au bout de 3 mois, on s'occupait de leur trouver une carte de travail et un permis de séjour. Mais enfin, ça s'obtenait extrêmement facilement. Bon, mais c'était des gens qui ne déferlaient pas d'eux-mêmes puisqu'il fallait aller les chercher. Donc à tout moment, on a eu des gens comme ça qui venaient et qui n'avaient pas ce déferlement. Non, ce que je dirais, la politique européenne en matière de migration, elle a une vision extrêmement simple, contrairement aux apparences. D'abord, l'idée, c'est de réduire la distance qui sépare les travailleurs légaux des travailleurs illégaux, tout simplement en rognant les droits des travailleurs légaux. Le modèle du travailleur migrant mis en avant par la Commission européenne, c'est quelqu'un qui vient pour une durée limitée de 2 ou 3 ans, qui vient tout seul, sans sa famille, et à qui on peut assigner un métier, assigner une région, de telle façon qu'on le garde en permanence sous contrôle. C'est ce que j'appellerais... le modèle, il est inspiré d'un modèle historique très ancien, qui est le modèle du deuxième apartheid. Vous savez qu'en Afrique du Sud, il y a eu 2 apartheids successifs. En 1948, il y a eu l'apartheid tel que mis en place par le premier ministre sud-africain de l'époque, qui était le docteur Malan, et qui était un apartheid fondé sur la notion explicite de supériorité raciale. Donc les Noirs étaient inférieurs aux Blancs, par conséquent, il fallait les mettre de côté par ce système de l'apartheid. Et puis, il y a eu les sanctions, il y a eu une réprobation universelle assez étendue. Et en 1960, est apparu un second apartheid, conçu par le premier ministre de l'époque, qui s'appelait le docteur Botha. Et ce second apartheid fonctionnait de façon différente. Dans la pratique, c'était la même chose, mais la justification n'était pas la même. Botha avait imaginé de diviser l'Afrique du Sud entre, d'un côté, une zone métropolitaine avec toutes les grandes villes, les industries, les activités, etc., qui était une zone blanche, et puis autour de cette zone blanche, toute une série de bantoustans qui étaient des zones pauvres, misérables, mais dans lesquelles était enfermée la population africaine, mais la population africaine allant travailler dans la zone métropolitaine était considérée comme une main-d'œuvre étrangère et par conséquent comme ne pouvant pas bénéficier du même statut, des mêmes droits que les autres. Et c'était sur cette différence de nationalité que était justifiée, entre guillemets, le deuxième apartheid. Mais d'une certaine façon, la politique européenne en matière de migration, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est de créer une zone métropolitaine européenne où seront concentrées les activités, les industries, les services, les richesses, etc. Et puis autour, toute une série de pays, Ukraine, Moldavie, Maghreb, etc., qui seront des pays fournisseurs de main-d'œuvre, mais comme ça sera des étrangers, eh bien, ils n'auront pas les mêmes droits. Et je pense que ce modèle du deuxième apartheid, c'est celui que les dirigeants européens ont en tête quand ils préparent les statuts de travailleurs migrants, dont la Commission nous a déjà fourni quelques exemples, etc. etc. Alors, dernier point, je veux dire, vous m'interrogez sur le fait que nos gouvernements, et en particulier les gouvernements de gauche, n'ont jamais sérieusement entrepris de mettre en place le droit de vote des étrangers aux élections locales, alors même que ce droit de vote a toujours figuré dans leur programme. Mais la réponse, vous la connaissez, je veux dire, et vous faites sans doute la même que moi. Il y a un problème de courage politique dans cette affaire. Il y a un problème de courage politique dans cette affaire. Le droit de vote, il a constamment été promis. Cette promesse n'a jamais été tenue. Elle n'a jamais été tenue à cause de, je ne peux pas dire d'autres mots, de la lâcheté politique de nos gouvernants. Parce que quand vous interrogez les intéressés, et ce n'est pas seulement sur la question du droit de vote, d'ailleurs, c'est sur la régularisation des sans-papiers, c'est la même chose. Moi, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec un certain nombre d'élus socialistes. Hein, et je leur ai toujours demandé, mais... enfin, qu'est-ce que vous pensez du problème des sans-papiers? Vous savez bien que c'est une situation intenable, etc. Mais la réponse a toujours été la même. Ah, mais on est complètement d'accord avec vous, mais on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire parce que nos électeurs ne comprendraient pas et ils iraient voter pour le Front National. Bon, c'est ce que j'appelle de la lâcheté politique. Alors vous me direz que, en matière de reniement des promesses, aujourd'hui, le droit de vote en est une parmi tant d'autres. Alors voilà. Mais moi, je n'ai pas d'autre réponse à faire. Il y a une question de courage politique en la matière. Il y a une question d'assumer ce qu'on dit. Si on croit, et c'est tout à fait fondé, que... je vais vous dire, moi, je ne suis pas un extrémiste en la matière. Il y avait une période où il existait le service militaire. Et les étrangers en France ne faisaient pas le service militaire. Bon. Alors on pouvait s'appuyer sur l'existence du service militaire pour dire, ben voilà, on va réserver le droit de vote à ceux qui servent la patrie, etc. Bien. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de service militaire. Alors vraiment, le dernier argument qui aurait pu vaguement justifier le refus du droit de vote, ce dernier argument n'existe plus. Je veux dire, les étrangers en France, au bout d'un certain temps, mais qui est d'ordre d'un an, disons, ben, ils sont en France, ils contribuent à la vie de la France, ils contribuent à sa vie économique, à sa vie sociale, à sa vie associative, à sa vie culturelle. Il n'y a aucune espèce de raison de les priver du droit de vote. Et encore plus s'il s'agit simplement du droit de vote aux élections locales. Bon, et en plus, contrairement à ce qu'on croit, moi je ne crois pas du tout que l'attribution du droit de vote aux étrangers serait une rente électorale pour la gauche. Je pense que, au bout d'un certain temps, les étrangers, vous savez, on a dit autrefois, on dit, ah, pas donner de vote aux femmes parce que les femmes vont voter à droite sous l'influence des curés. Bon, tout le monde a bien vu que c'est pas ça, comme ça que ça se passait. Les femmes, elles se distribuaient dans l'échiquier politique à peu près de la même manière que les hommes. Mais ça sera pareil pour les étrangers. Il n'y aura pas de prime pour personne. Il y aura des étrangers, s'ils ont le droit de vote, ils voteront Front National. Il y en a qui voteront UMP, puis il y en a qui voteront à gauche. Mais je pense pas du tout qu'il y aura des déséquilibres très différents de la population française. Donc c'est une mesure raisonnable, c'est une mesure d'intégration. Et tous les gens qui ont à la bouche cette intégration en permanence, ils sont quand même caractérisés par le fait que, dans la pratique, ils s'opposent au droit de vote, ils s'opposent à la carte de 10 ans, etc. etc. Bon, là aussi, il faut être cohérent.
Ah, question là-bas.
Bonsoir, Jean-Claude Roland. Contrairement à Nicolas, plutôt que d'aller lire le Kama Sutra dans la clairière de Rambouillet, je préfère aller voir des pays d'Amérique latine pour voir un petit peu comment ils vivent et ce qui s'y passe. Je pense que le débat sur l'immigration à l'heure actuelle, comme d'autres débats, sont des problèmes, des débats de faux cul, pardonnez-moi. Des débats de faux cul, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est qu'il y a un certain nombre de valeurs de gauche qui ont été complètement perdues. Et à l'heure actuelle, qui décide de la hauteur ou de la teneur de ces débats? C'est les gens de droite. Ils décident de ces choses-là parce que le patronat est derrière. Il a besoin de créer des divisions entre les gens. Et ils vont chercher de la main-d'œuvre, comme tu disais tout à l'heure, du temps de Citroën, etc. Moi, j'ai distribué des tracts à l'époque à Citroën Javel dans le 15e arrondissement. C'était des gens qui venaient parce qu'ils avaient eu des contrats signés là-bas, dans ces pays-là, et qu'ils étaient comme des esclaves dans le 15e arrondissement. Ils étaient surveillés et autres. Dès qu'on venait distribuer un tract, il y avait tout de suite 15 nervis qui sortaient pour nous taper dessus. Et après, c'était les quarts de police qui venaient. Donc, à tous les coups, le patronat a besoin de main-d'œuvre. Il a besoin de main-d'œuvre et toujours de moins en moins cher. La compétitivité. La compétitivité, avant qu'on aille sur Mars trouver des Martiens ou des Saturniens, il faut bien les trouver sur Terre. Donc, il y avait les Chinois qui étaient moins chers. On a eu avec Bolkenstein, on a eu les Polonais, etc. On a eu d'autres. Et puis après, on fait le tour. Après, il va y avoir les Bangladesh, etc., etc., tout un tas de pays. Mais ça, si on ne remet pas toutes ces notions-là sur la table, si on les approfondit pas, si on se barre pas sur ces notions fondamentales, on va à la catastrophe. Et qui est-ce qui fait qui est-ce qui ramasse la mise? C'est comme si je pouvais m'exprimer ainsi. Mais c'est quand même le Front National. Parce que les gens ne comprennent pas que le débat à l'heure actuelle, c'est le capital contre nous. Et nous, et eux, les immigrés. Parce qu'il faut bien se mettre dans la tête aussi qu'il va falloir qu'on approfondisse un petit peu les choses. C'est qu'avec les changements climatiques, il risque d'y avoir des changements des flux de migratoires très importants. Et ça commence dans certaines régions. Donc si on n'élève pas le débat à tous ces niveaux-là, on va à la catastrophe. Et on est prêt à avoir un petit Hitler qui... Alors on tapera sur la tête, avant c'était les Juifs, après c'était les Rital, les Polacs, etc. Après c'était les Bougnoules, maintenant ça va être autre chose. Donc est-ce qu'on élève à gauche le débat sur toute cette question-là? Voilà.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer les changements de position du gouvernement italien par rapport à ce qui se passe du côté de Lampedusa?
C'est une question tout à fait intéressante à laquelle j'ai pas de réponse bien établie. Il y a eu un changement de politique du gouvernement italien vis-à-vis de non seulement de Lampedusa, mais de ce que le gouvernement italien a lancé sous le nom d'opération Mare Nostrum. C'est-à-dire que la marine italienne a été envoyé pour recueillir et sauver un certain nombre de migrants en perdition dans la traversée depuis les côtes de Libye et du Maghreb en direction de Lampedusa. Et effectivement, la marine italienne a sauvé plusieurs milliers de personnes, ce qui est une attitude très différente par rapport à l'attitude que les Italiens avaient, comme les autres d'ailleurs, précédemment. À ma connaissance, mais un spécialiste de l'Italie pourrait vous répondre mieux que moi. Ce qui s'est passé à Lampedusa, et enfin aux alentours de Lampedusa, toutes ces noyades, ont quand même créé en Italie une émotion extrêmement forte, dans la population italienne. Créé une émotion extrêmement forte, et il semble que, par ailleurs, que l'intervention de l'Église catholique en la matière et joue un rôle relativement important. Bon, vous savez qu'un des premiers gestes du nouveau pape, ça a quand même été de se rendre à Lampedusa. Bon. Il faut bien voir comment les choses se présentent. Théoriquement, en fonction des accords de Dublin, quand un pays accueille des réfugiés, il doit traiter leur cas lui-même. Prendre leurs empreintes digitales, de telle façon que s'ils s'en vont, on puisse les renvoyer ensuite dans le pays où ils sont arrivés, parce que c'est à lui de traiter le problème. Bon, il semble que l'Italie, après avoir été beaucoup intervenue auprès de la Commission européenne pour qu'il y ait en quelque sorte un partage des charges et des responsabilités, n'avoir obtenu aucun résultat de la part des pays voisins, a décidé d'alléger beaucoup les contrôles exercés sur les migrants qui débarquent en Italie, et de faire en sorte qu'en réalité ces migrants ne sont pas enregistrés, et peuvent par conséquent se présenter aux frontières de l'Italie, rentrer en France, rentrer en Allemagne, etc., sans avoir été enregistrés en Italie. Bon, ce qui est une réponse à l'inertie de l'Europe en face du problème auquel ont fait face les Italiens. La Grèce a la même attitude. Bon, je pense que l'Italie et la Grèce sont les deux pays qui accueillent le plus de migrants irréguliers qui traversent la mer, etc. La Grèce serait censée prendre également ces fameuses empreintes digitales. Elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas parce que si elle le faisait, tout immigré ayant traversé par la Grèce serait renvoyé en Grèce et la Grèce serait en quelque sorte submergée sous le flot des gens qu'on leur enverrait. Mais ça prouve bien que les accords de Dublin, ça ne fonctionne pas. Les accords de Dublin, ça ne fonctionne pas. Et je pense que l'Italie a une politique qui aboutira à la remise en cause de ces accords de Dublin et au fait qu'on gérera autrement l'arrivée de ces migrants. Bon, c'est la réponse que je peux vous faire, mais il faudrait connaître mieux l'Italie que moi. En tout cas, pour une fois, il y a eu une période où les pêcheurs italiens qui secouraient les naufragés étaient ensuite, à leur retour, mis en accusation pour aide à l'immigration irrégulière. Bon, apparemment, cette période est révolue. Ben, on ne peut que s'en féliciter.
Je voulais intervenir, je voulais juste compléter la proposition de Benoît tout à l'heure concernant les jeunes majeurs. Avant qu'ils soient majeurs, je fais partie de RESF, enfin plusieurs choses, mais particulièrement avec RESF. C'est-à-dire qu'actuellement, ceux qui ne sont pas majeurs, qui sont mineurs, qui sont entre autres pris en charge par l'ASE, et c'est ça, je suppose, le gros problème que tu voulais parler, c'est qu'en fait, comme c'est rentabilité, et qu'un sou, c'est un sou, ils arrivent avec des extraits d'actes de naissance, hein, ou des fois sans des papiers parce qu'ils arrivent dans des pays perturbés où les archives ont été perdues, ou, bon, voilà. Et donc, on leur fait passer des tests osseux, qui c'est complètement illégal, parce que ça ne correspond strictement pas, voilà, entre les pays. Et on considère, et ça se passe ici dans les Yvelines, à Lyon particulièrement aussi, on dit que bon ben voilà, c'est une tromperie, vous n'êtes pas mineur, vous êtes majeur, et du jour au lendemain, ils sont à l'ASE, ils sont sortis de l'ASE, ils sont mis dehors, sur le trottoir, c'est-à-dire sans rien. Donc actuellement, il y a tout un mouvement de lycéens, il y a la fidèle qui se met en... Enfin, qui essaie de... Bon, il les abrite chez eux, les professeurs, enfin, et tout. Mais on est dans un monde de fous, quoi. C'est impensable. Ces jeunes, voilà, ce sont des enfants, ils sont dans la rue, sans rien. Et puis, je voulais dire aussi simplement, parce que avec Fabienne, on fait partie d'un collectif qui s'appelle Rome Yvelines, que ce sont donc des Européens qui viennent en France et qui sont, je veux dire, les personnes peut-être... les plus stigmatisés dans toute l'immigration, de tout ce qui peut exister, et qu'on fait vivre... nous, on s'occupe d'un terrain qui est sur Trieil, on les fait vivre comme on ne ferait pas vivre des animaux, c'est certain. Voilà, et l'accompagnement. Il y aurait beaucoup à dire par rapport à ça.
Et il n'y a pas eu d'invasion de Romains, de Rome, comme il était prévu après... Il n'y a pas eu d'appel d'air, apparemment. Mais,
là encore, on est dans le fantasme le plus total. Je veux dire... On sait très bien combien il y a d'intéressés en France. Je veux dire, c'est une communauté qui représente à peu près 20 000 personnes. Bon, sur l'ensemble du territoire national, personne ne me fera admettre qu'un pays qui se prétend la cinquième puissance économique mondiale, etc., n'a pas la possibilité de fournir des logements, etc., à 20 000 personnes. Moi, je suis toujours frappé d'un fait. On nous parle de raz-de-marée, on nous parle d'impossibilité, etc. Enfin... bon, j'avais 27 ans à l'époque, mais j'étais quand même adulte et majeur, et je voyais bien ce que j'avais sous les yeux. En 1962, la France a accueilli, en l'espace de 2 mois, 1 million de personnes. Alors, je ne dis pas qu'ils ont été accueillis dans des conditions très satisfaisantes, mais enfin, les Français d'Algérie sont arrivés en l'espace de 2 mois... ça n'a pas provoqué de révolution sociale en France. Et ce sont des gens qui, au bout de quelques années, ont fini par trouver à s'insérer et par trouver leur place dans la communauté. Bon, de sorte que tous ces chiffres qu'on nous donne sur l'invasion, etc., tout ça est impensable. Mais c'est, encore une fois, c'est des fantasmes qu'on agite dans la tête des gens. Et ça marche, d'ailleurs, ça marche. Vous savez, le célèbre sondage périodique sur le fait de savoir s'il y a trop ou pas assez de migrants en France et où régulièrement une fraction significative de la population répond qu'il y en a beaucoup trop. Mais là où les chiffres selon lesquels il y en a beaucoup trop sont au maximum, c'est dans les régions où il y a le moins d'immigrés. C'est-à-dire c'est dans un certain nombre de villages de campagne où personne n'a jamais vu un immigré de leur vie. Et simplement, ils les ont vus à la télévision et ils ont entendu ce que la télévision racontait à leur sujet. Mais tous les sociologues qui ont participé à ces sondages vous le diront. Donc là, on est dans le jeu politicien.
Moi, je voulais revenir justement par rapport à ça. C'est un peu sur ce que disait... On aura l'occasion d'en reparler dans une des conférences qui va avoir lieu. C'est avec Aurélien Bernier sur le 9 avril. Sur justement pourquoi la gauche radicale n'arrive pas à faire face au Front National, justement. Et sur le fait que la peur, effectivement, jouer sur la peur, ça marche. Et comment nous, effectivement, on peut essayer de contrecarrer ça. Moi, je trouve que la conférence d'aujourd'hui apporte quand même un certain nombre de questions sur le fond et de réponses. Partons de ce qui est, que tout ça, ça a toujours existé. Et je trouve que les arguments d'Emmanuel sont assez intéressants à ce niveau-là. Par contre, sur ce qu'a dit Nicolas sur la mobilité, etc., je pense que c'est effectivement... je pense que c'est une question de droit et que on n'empêchera pas les gens de bouger et que l'homme a toujours voulu. Il y a des hommes qui ont toujours voulu bouger sur Terre et d'autres qui ont toujours voulu rester au même endroit. Et je crois que c'est quelque chose d'inéluctable qu'on ne peut pas dire. Voilà, c'est bien par rapport à la croissance. Il faut pas, etc. On veut décroître. Mais justement, l'argument, c'est de quand on nous dit que l'immigration coûte cher, c'est un contre-argument. C'est de dire non. Ça coûte pas cher puisqu'ils apportent de la croissance. Puisque vous en voulez, nous on n'en veut pas forcément, mais puisque vous en voulez, la preuve c'est qu'ils rapportent des richesses au pays où ils sont. Voilà, et au pays où ils envoient de l'argent. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut donner l'argument de la croissance. C'est en disant, vous vous contredisez en fait, en disant qu'il coûte cher. C'est exactement l'inverse. Donc voilà. Alors je pense qu'on peut terminer et remercier Emmanuel, puisque je vois que les gens vont s'en aller de cette conférence. Et permettre aussi de découvrir les livres d'Emmanuel et ses conférences. Je vous rappelle que donc voilà, merci Emmanuel et à une autre fois. Merci beaucoup. Je vous rappelle que la prochaine séance est le 13 novembre et justement on pourra peut-être en parler. C'est une conférence sur les origines de la construction européenne, mythes et réalités aussi, hein, beaucoup de mythes et réalités avec Annie Lacroix-Ritz. Et qu'il y a un atelier le 22 novembre à Épône sur l'autodéfense féminine qui est réservé aux femmes et ça fait beaucoup discuter. Alors je vous rappelle aussi, et Claude me le rappelle, mais j'y ai pensé parce que j'ai pas parlé tout à l'heure, c'est que l'université, elle est évidemment gratuite, mais vous savez très bien que la gratuité, ça n'existe pas vraiment, mais que nous avons évidemment besoin d'un petit peu d'argent pour la faire fonctionner, notamment pour notre petite brochure qui est très utile. Donc, il y a une caisse à la sortie où vous pouvez mettre une petite obole si vous le désirez. À bientôt.